RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 20h. Journée de repos sur le Tour de France. La Coupe du Monde est terminée, mais on est là pour vous accompagner. Vous êtes peut-être sur la route des vacances. Lui en revient tout bronzé, en pleine forme, et il va m'accompagner jusqu'à 20h. Stephen Braila, ça va Steph?
Salut Georges, salut à tous, en pleine forme, très content de partager ces deux heures avec toi.
Ouais, content de ton bronzage qui est un peu indécent.
Je trouve très correct ton bronzage. Et il est pas fini mon grand.
t'as croqué la Coupe du Monde, t'as croqué l'Intégral Tour à pleines dents là, pendant tes vacances.
Effectivement, l'Intégral Tour sur la route et puis la Coupe du Monde.
Tu sais qu'on n'est pas champion du monde.
J'ai cru comprendre qu'on l'était pas, ouais. Mais j'ai cru comprendre qu'on avait fait un énorme match en demi-finale.
Ouais, franchement. Demi-finale. Ah, surtout en match sur la troisième place. Là, par contre.
On a fait un set de tennis.
On a fait un set de tennis, voilà. C'était impressionnant.
Bon, on s'est fait breaker, on a perdu 6-4.
Quoi. Ouais, on avait commencé, on avait perdu deux fois notre service. Oui.
Après,
on est revenu fort. Ouais, bon, ben voilà, la France a terminé quatrième de cette Coupe du Monde que vous avez vécu sur RMC, la radio officielle. Alors, on a plein de sujets à vous proposer aujourd'hui. Alors, ben, figure-toi que Didier Deschamps, ça y est, c'est terminé. On peut plus en parler, là, les montages et tout dans le Super Moscato Show. Bon, vous allez en faire quand même s'il est plus là.
Ah mais... oui, et puis ouais. On attendra Zinedine Zidane.
Eh oui, on attend Zidane, bien sûr. On va se poser la question avec nos dernières informations. Quel chantier pour Zinedine Zidane dont on attend une officialisation sur le banc des Bleus en fin de semaine ou début de semaine prochaine? On va en parler avec nos journalistes qui suivent l'équipe de France. Il t'a plu le mondial aux États-Unis là?
Moi, j'ai trouvé ça très correct.
Très correct?
Ouais.
Mais il y a des choses que tu as trouvées un peu plus incorrectes?
Ouais. Certaines, on va en parler, Georges.
Ben, on va en parler avec vous.
Notamment l'influence d'un certain président.
Ah d'accord, on peut pas enlever des cartons rouges comme ça?
Bah, normalement non.
Ah bon? Ouais, c'est bon.
J'ai l'impression qu'il a du poids quand même, notre ami Donald.
Ah bah il était presque sur la photo, le président américain.
Est-ce que t'as vu quand R9 lui a porté le trophée dans son bunker hier et qu'il a resté le trophée, il était content. Il y a des trucs qui m'ont dépassé un peu.
Ah bah, oui, mais les Espagnols ont été bons parce qu'ils ont réussi à l'écarter.
Oui, mais il était
très élégant.
Il a voulu quand même
de la photo où il soulève la Coupe du Monde. Le mondial de Trump, enfin le mondial chez Trump, ça vous a plu ou pas? On vous attend au 32-16 pour en parler. On retournera sur place aux États-Unis pour en comprendre comment ça a marché de l'intérieur. On va aller sur la route du Tour de France. Journée de repos aujourd'hui avant d'attaquer la troisième et dernière semaine, hein, c'est l'arrivée à Paris dimanche. Paul Sexa c'est quatrième pour l'instant. Richard Virenque va nous rejoindre pour en parler avec nous. Est-ce que rater le podium pour Sexa serait décevant? On va aussi en parler avec Raphaël Jeune qui est manager général de l'équipe Cofidis pour savoir à quel point c'est difficile dans ce tour de se faire une place, hein, parce que tu sais que l'équipe de Pogacar ils en laissent pas beaucoup hein. Voilà, Remco Evenepoel a réussi hier, mais c'est compliqué, et c'est compliqué aussi quand on est leader de dormir la nuit parce qu'il y a des contrôles antidopage nocturnes qui ont bien surpris Pogacar et Vingegaard qui a abandonné, je vous rappelle, hier. On va vous donner les dernières informations là-dessus. Et puis, on va revenir aussi sur le 15 de France qui a joué les trois premiers matchs du nouveau championnat des nations. Enfin, c'est la tournée en hémisphère sud, on va tout vous expliquer. Deux victoires, une défaite. Victoire face au Japon notamment. On sera avec Aaron Grandidier, ailier du 15 de France qui a... Tu te souviens de Aaron Grandidier?
Champion olympique rugby à 7 à Paris 2024.
Il dansait avec Antoine Dupont.
Ah,
et
oui,
tout, là,
c'est
tout
régalé. Il a des cannes par contre, il va vite. Hein.
Ah bah il va très très vite. Bah, le problème c'est qu'il a le même poste que Louis Bielbiaré.
Eh ben on va lui demander.
On va en parler avec lui, bien sûr. Et on sera avec Pierre Thévenet également qui vous a fait vivre cette rencontre. Tiens, avant de commencer, on voulait rendre hommage à Kevin Keegan, une légende du football qui nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Double ballon d'or, hein, Stephen. Ouais, 78, Cambourg, ouais. 79, exactement. L'un des attaquants les plus talentueux de sa génération. Et Cambourg, tu l'as dit, mais surtout
Liverpool.
Figure mythique de Liverpool, des Reds, où il a été sacré champion d'Europe en 77. Il a gagné deux fois la petite Coupe d'Europe également. Il y a passé 6 ans, 322 matchs, 100 buts, 88 passes décisives.
Prolifique, hein.
Prolifique. Kevin Keegan, ouais. C'est ça.
Donc, plus prolifique que quand il était sélectionneur des Three Lions.
Oui, exactement. Ça a duré un an, ça s'est pas très bien passé, mais voilà, il a entraîné plusieurs clubs anglais, dont le Newcastle, également de David Ginola. Donc voilà, une grande personnalité du football qui nous a quittés aujourd'hui. Évidemment, on en reparlera dans l'after ce soir avec Gilbert Bribois et toutes ses équipes. Ils rendront hommage et vous expliqueront peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui était Kevin Keegan et pourquoi. C'est évidemment une grande disparition pour le monde du sport. Allez, on va parler foot tout de suite pour commencer. L'Espagne est revenue à notre hauteur. Deux étoiles sur le maillot comme les Bleus après leur victoire 1-0 après prolongation face à l'Argentine hier soir en finale de la Coupe du Monde. Vous l'avez vécu sur RMC.
C'est parti, le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne
gagner l'Argentine, donc, qui sera le 23e champion du monde. Réponse dans quelques minutes ici à New York. Yamal. Oh, l'arrêt, le miracle, le petit miracle pour les Argentins.
Espagne qui pousse, il n'y a rien à dire pour le moment, c'est la meilleure équipe, c'est celle qui est la plus proche d'ouvrir le score. Nico Williams qui va accélérer à l'entrée de la surface de réparation, le ballon peut-être au second poteau dans la frappe et l'arrêt de Martinez.
Et attention derrière, les Argentins qui repartent de l'avant. Oh, le tacle en retard terrible là sur Koubarsi, et ça va être un carton jaune
rouge
pour c'est Enzo Fernandez pour son deuxième jaune. Et attention, parce que s'il y a prolongation, ça veut dire que les Argentins vont la faire à 10. Coup franc qui pourrait faire la décision pour l'Espagne. Lamine Yamal, c'est parti, l'arrêt de Dibu Martinez, et c'est terminé. Prolongation dans cette finale de la Coupe du Monde.
Centre de Pedro Porro, il est touché, ça revient dans les pieds peut-être de Merino. La sortie, la frappe,
le but. Oh, le coup de sifflet de l'arbitre, est-ce que le but va être validé? Non, il y a coup franc, le but est annulé. La tête, oh, l'occasion énorme pour Mikel Merino. La balle de match était là pour les Espagnols. Nico Williams en retrait, la frappe, à l'Argentine. L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Les Espagnols sont venus au bout des Argentins. La victoire 1-0 pour l'Espagne de Luis de la Fuente.
L'Espagne mérite en tout cas sur le match, son titre.
Bravo aux Espagnols, champions d'Europe, champions du monde donc pour la deuxième fois de leur histoire.
Ouais. Vamos, la Roja, championne du monde. Ah, je m'y attendais pas, là. C'est vrai que bah, c'est l'ambiance l'été, hein, c'est le verano espagnol.
On reste dans l'ambiance Coupe du Monde avec Shakira, quoi. Hispanique.
Ouais, ça ressemble à Shakira, mais je suis pas sûr que ce soit Shakira.
Non, je pense qu'il y a moins d'oseille.
Oh, tu penses qu'elle a gagné un peu d'argent avec
un
la Coupe du Monde?
Ouais,
il doit y avoir 2-3 trucs. Elle a pas dû faire ça de manière bénévole. Tiens, avant de retrouver nos envoyés spéciaux dans quelques instants, juste, on t'a pas entendu sur la finale de la Coupe du Monde, Steve. C'était une belle finale, hein.
C'est pas le qualificatif que j'emploierais, Georges, mais écoute.
Ironique.
Bon, ouais, moi je suis pas dans la détestation de cette équipe argentine. Alors, il y a des gens qui ont fait des choses idiotes comme beaucoup d'autres dans des pays différents. Mais écoute, hier, je suis un peu circonspect de la façon de jouer des Argentins, parce que je pense qu'ils avaient de quoi faire mieux. Et quand on voit quand ils prennent le but de Ferran Torres, on voit que quand ils ont envie de jouer au football et qu'ils peuvent attaquer, ben ils font des choses, parce qu'hier ils ont des occasions. D'ailleurs, le petit Simone, il a du mal à dormir
il a une occasion à dormir de la fin
pour égaliser un partout, mais les mecs ils sont venus pour en découdre, en fait, hier, les Argentins. Il y avait pas une fois où il y avait pas un Espagnol par terre. Donc oui, cette finale elle était moche. C'était un plan de jeu que bon, on n'aime pas quand on regarde un match de football. C'était le plan de jeu choisi par Scaloni et par ses soldats, notamment ce bon Paredes qui est rentré en jeu. Il dit bagarre de rue, hein.
Ah bah, même à la fin du match on a vu les images, ouais, franchement vilain, indigne, vilain, hein, où il s'en prend aux Espagnols après la rencontre.
Vilain, voilà, écoute, les Argentins, c'était déjà une énorme surprise pour eux de se retrouver en finale. Ils ont adopté ce plan de jeu là parce qu'ils ont estimé qu'il y avait que cette façon là peut-être pour faire de jouer les Espagnols. Ça a failli marcher.
J'imagine.
Parce qu'ils se retrouvent à 10, parce que bon, l'autre il craque, il a plus de lucidité et qu'il prend un deuxième jaune.
Ça aurait été le champion du monde le plus moche de l'histoire pour la finale.
Et j'ai envie de dire, je pense qu'on est tous un peu contents que ce soit l'Espagne par le football produit qui soit champion du monde aujourd'hui, mais malgré tout, j'ai envie quand même de dire bravo aux Argentins, parce que ça a été un paquet de fois des morts vivants sur cette Coupe du Monde contre l'Égypte, contre l'Angleterre. Ils sont de nouveau en finale, ils avaient des chances de défendre leur titre. Voilà, le football proposé a été hideux, mais bravo aux Espagnols.
Tiens, d'ailleurs, selon nos infos, la FIFA va ouvrir une procédure disciplinaire pour faire toute la lumière sur les violents échanges qu'il y a eu en fin de match. Elle devrait analyser toutes les images et les rapports des officiels avant de prendre une décision. On a vu notamment aussi l'adjoint de Scaloni, Ayala, mettre carrément une droite à Dani Olmo. Hein.
Catastrophe.
Voilà, Molina a également touché un joueur, franchement catastrophique.
Bellingham, on a des news de Bellingham qui a mis une petite chiquette à Marco.
J'aimerais savoir ce que c'est dans le rapport. Ah oui, après l'Angleterre-Argentine. Est-ce que dans le rapport, il y avait écrit chiquette
La chiquette.
Allez, tiens, on va accueillir deux personnes avec nous. Valentin Jamin, qui est toujours aux États-Unis, il a commenté cette finale de la Coupe du Monde pour RMC. Salut Valentin.
Salut les amis, bonjour à tous.
Et depuis Madrid, depuis le pays qui compte une deuxième étoile depuis ce matin, Ben Fernandez Santos, journaliste espagnol avec nous. Salut Ben.
Bonjour, bonjour à tous, campeones.
Enhorabuena, comme on dit, félicitations.
La Roja,
avec une deuxième étoile. Raconte-nous, tiens, on parlait avec Stephen là, de la perception de la finale. On a beaucoup entendu, Ben, en France, que le football avait gagné hier soir. Qu'est-ce qui se dit en Espagne après cette finale?
Ah, la même chose, hein. El football a gagné, ou le football a gagné. On est tous très contents, sincèrement, tous très heureux. Hier, déjà, le but annulé, ça nous a mis une belle douche froide, parce qu'on pensait que, tout le monde était en train de sauter, en train de crier parce que nous, on était dans une fan zone.
But de Nico Williams, hein.
But de Nico Williams qui a annulé parce que Otamendi se fait marcher sur le pied. Bon, c'était léger, hein. Ouais. Donc,
oui, c'était léger, mais on était tous très euphoriques et tout d'un coup, on a eu un peu cette douche froide. Et ensuite, quand le but de Ferran Torres est arrivé, c'était une explosion de joie, franchement, et de pouvoir vivre ça avec tes amis, franchement, c'est exceptionnel.
Raconte-nous, Ben, hein, puisque t'es en Espagne. Alors là, je vois les images en direct actuellement. Ils sont les joueurs de la Roja, ils sont arrivés en Espagne. Ils sont au palais de la Zarzuela, qui est le palais royal, avec le roi Felipe VI notamment. La Coupe du Monde est présentée là-bas. Mais c'est quoi? On s'attend à une grosse fête aujourd'hui dans les rues de Madrid. Ça va ressembler à quoi?
Ouais, là c'est prévu qu'il y ait beaucoup de monde. Je pourrais pas vous donner une estimation de personnes, mais là je suis sur le point de partir vers la place de Cibeles.
Ouais.
Donc là ils vont célébrer le titre. Mais là j'ai vu quelques images d'amis qui sont déjà sur place, de collègues. Ça commence gentiment à bien se remplir et ce soir on va bien faire la fête.
Ça c'est clair, hein, ça a annoncé jusqu'à très tard déjà. Il y a 2 ans quand l'Euro avait été fêté, ça avait duré. Valentin Jamin, à New York encore, tu as commenté cette finale, on t'a entendu à côté de Jean-Louis et crier le gol, 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 gol.
Ferran Torres. On n'a pas pu tenir aussi longtemps.
Ouais, bon, on a essayé, t'as vu Ben, on essaie de le faire en France, ça ne nous sort pas tout à fait pareil. Hein, pour annoncer
ça va, il y a un bon accent, vous avez un bon accent. Le double R, il n'est pas facile à faire, mais vous l'avez bien fait.
Jean-Louis, il a passé quelques années en Espagne, c'est pour ça il le gère. Non mais Valentin, raconte-nous sur place. Toi, t'as vu aussi les images après la rencontre. Tu l'as vu de tes yeux, ce qui se passait sur le terrain. C'était une guerre des tranchées pour les Espagnols. Ils ont tremblé. T'as senti sur cette finale ou pas?
Franchement non. Quand on voyait le match, on voyait pas vraiment comment ils pouvaient la perdre. Même hormis, vous en avez parlé, mais les 5 dernières minutes où ils marquent et derrière en fin de prolongation, ils reculent. L'Argentine pousse un peu. Il y a ce ballon chaud dans la surface avec Simeone, Messi. On voyait, ils étaient un peu sur le côté droit. Ils décrochaient pour mettre des ballons devant le but de Unai Simon. Donc là peut-être qu'ils se sont dit c'est pas possible, on n'a pas pris un tiers du match et peut-être qu'ils vont égaliser, mais sinon il n'y a eu aucun danger créé par l'Argentine et nous en voyant le match on voyait pas comment ça pouvait échapper aux Espagnols hormis s'ils n'arrivaient pas à marquer. Mais il y a des chiffres fous messieurs quand même, aucun tir avant la 115e minute pour l'Argentine, c'est du jamais vu dans une finale de Coupe du Monde. Aucun ballon touché dans la surface adverse en première mi-temps et Messi sur les 120 minutes n'a pas touché le ballon une seule fois dans la surface de l'Espagne. Donc ça aurait été franchement un vol hein, de voir du jeu, de voir l'Argentine gagner. On n'a rien vu offensivement. Après il y avait des joueurs qui étaient usés, on le sentait aussi. T'en as parlé Georges hier, mais Lisandro Martinez, Romero, ils sortent blessés. Tagliafico, il finit sur les rotules. Enzo Fernandez, je pense qu'il est plus lucide parce qu'il est cuit aussi.
Il prend rouge,
c'est mérité.
Ouais.
Et Sandy Bou Martinez, ça aurait fait plus lourd, hein, tout simplement. Donc la seule peur, nous ont dit les Espagnols après le match, ils nous ont dit on n'a pas eu trop peur, sauf quand on voyait qu'on approchait des tirs au but et on s'est dit c'est pas pour nous. Entre les arrêts de Martinez, le but refusé, ça peut tomber du côté des Argentins. Mais à part ce vice, même c'était pas du vice, c'est un peu cette violence Paredes, vous en avez parlé, etc. On n'a pas vu grand chose. Donc j'ai bien aimé la phrase de Marca que j'ai regardé ce matin. Ils ont dit c'était pas juste gagner le mondial, c'était sauver le foot hier soir. Et
c'est un peu la tonalité, la couleur. Val, quand on entend dans le monde entier hein, là pour le coup, hein, c'est vrai que cette Argentine a été un peu indigne, qu'une victoire aurait été un peu scandaleuse vu l'attitude condamnable. Il y a rien à dire hein, parce que voilà, même l'adjoint de Scaloni, je disais,
qui se met à condamner en Argentine, Georges.
En tout cas,
où est-ce que le peuple argentin adhère à ce football-là?
Le rouge de l'entrée de Paredes est critiquée. Hein, elle a été critiquée notamment au moment où il prend son carton jaune, il commence à se battre avec tout le monde. Évidemment, la lecture elle est pas tout à fait la même. Les Argentins, ils sont tout à fait conscients que les Espagnols étaient au-dessus. C'est dit hein, partout. Il n'y a pas là-dessus de débat.
S'il avait gagné, il l'aurait prise.
Il y a le sentiment, voilà, d'être mort debout en fait. Morimos de pied, c'est ce qui se dit beaucoup en Argentine. Elle t'a impressionné cette équipe espagnole sur la Coupe du Monde, Steve?
Moi, je les ai trouvés forts, très forts. Et sur le match d'hier, à un moment donné, il y a même pas de panique en fait, parce que tu peux te dire, on domine la rencontre, on marque pas. À un moment donné, on peut paniquer, forcer des choses, se précipiter. Ils sont restés dans leur plan de jeu, c'est-à-dire avec le ballon, la construction, et même pas utiliser les talents qui étaient là, puisque Lamine Yamal, on en reparlera peut-être plus tard, fait une très petite Coupe du Monde.
Un but. Bon,
à 19 ans, il est quand même champion du monde, mais il faudra aussi dans 4 ans, s'il veut être le joueur qui prétend être et qui doit être, qu'il soit un peu plus performant individuellement dans 4 ans ou au prochain Euro. Mais cette équipe-là, elle propose, enfin, tout le monde est sur la même ligne, tout le monde joue le même football. Moi, je les ai trouvés forts. Alors, il y a cet accro, mais c'est en début de. J'ai l'impression que c'était il y a 4 mois, ce match contre le Cap-Vert, et ce match nul. Mais sinon, il n'y a pas eu d'inquiétude dans les rencontres. Ils ont tellement dominé. Et la demi-finale contre la France, c'est une leçon de football. Hier, c'est une leçon de football. Et au final, eux proposent ce football-là et permettent aux autres équipes de changer des choses. Parce que les Argentins, on les a vus, ils sont capables de jouer au football. Mais hier, ils se sont peut-être, dès le début de match, en disant, en fait, on n'y arrivera pas.
Et comme la France, en demi-finale.
Comme la France aussi, alors que la France avait d'autres armes aussi que l'Argentine. La France, ils n'ont pas décidé de, peut-être qu'ils auraient même dû salir un petit peu le jeu, mais ils ne l'ont pas fait. Les Espagnols ont joué le football demandé par De La Fuente avec des joueurs de. J'ai pas envie de dire, parce que c'est péjoratif, de dire des joueurs de rôle, mais des garçons qui ne sont pas des superstars, se sont révélés dans cette Coupe du Monde-là. Le petit Koubarsi qui a 19 ans, qui a été un patron de la défense centrale.
Pedro Porro, le latéral.
Pedro Porro, Cucurella, on savait que c'était un joueur de très haut niveau, il l'a encore confirmé, mais les stars attendues, Yamal, Nico Williams, ce sont pas eux qui font gagner l'Espagne.
Ça montre la force du collectif. Ben Fernandez Santos, journaliste espagnol à Madrid, elle rend fière les Espagnols, cette équipe. Tu sais, on se posait la question en préparant l'émission, est-ce que cette domination, elle risque pas un peu de durer? Ça commence à nous faire peur en France. Qu'est-ce que vous en dites en Espagne?
Ouais, bah écoutez, on espère, hein, surtout que dans 4 ans, la Coupe du Monde sera à la maison. Donc l'objectif, clairement, c'est de pouvoir défendre notre titre à la maison. Et si Dieu le veut, le remporter à la maison, ce sera encore plus beau. Mais oui, comme vous avez très bien dit, je pense que cette équipe, elle nous représente bien, les Espagnols, parce que, comme vous l'avez bien dit, on n'a pas forcément de grosses superstars dans cette équipe, où Lamine Yamal, malheureusement, n'a pas fait le tournoi qu'on espérait, même si on l'a remporté.
Peut-être que Rodri en est une.
Oui, aussi Rodri, qui est quand même un ballon d'or, il faut pas. Mais vous voyez, quand en 2024, Rodri avait gagné le ballon d'or, même en Espagne, on avait des doutes comparé à ce qui s'était arrivé, ce qui s'était passé avec Vinicius, parce que Vinicius aussi le méritait à ce moment-là. Mais là, on a le sentiment qu'on a une sélection déjà qui sait où elle va, avec un entraîneur qui sait ce qu'il doit faire, le groupe qu'il a, le groupe humain qu'il a construit. Franchement aussi, Luis de la Fuente ici en Espagne a été pas mal critiqué par rapport à certaines décisions, notamment celle de Gavi. Tu le mets des titulaires au début du tournoi, justement contre le Cap-Vert. Après, c'est vrai que Gavi, on l'a pas trop vu pendant le tournoi ensuite. Mais c'est quelqu'un qui a su se remettre en question, qui a su savoir corriger et prendre des grosses décisions, parce que mettre Pedri sur le banc, il faut avoir une belle paire, vous m'excusez l'expression,
on parle des œufs, je crois, en Espagne, quand on parle de ça.
Exactement, il faut en avoir une. Et non, franchement, on a une équipe avec une très belle identité de jeu, qui sait ce qu'elle propose, qui n'a pas peur de l'adversaire, même si l'adversaire en face est coriace. Par exemple, on savait que la France était clairement l'adversaire à battre pendant ce mondial, mais en aucun moment cette équipe a ressenti peut-être une peur. Ils se sont toujours dit, on peut les battre, il ne faut pas les sous-estimer, mais on peut les battre, et comme ils l'ont fait hier avec l'Argentine, on savait que ça allait être un match très compliqué, que les Argentins n'allaient peut-être pas jouer au football, et nous on a su rester dans notre match, mentalement fallait être solide, et on n'a pas eu, vous l'avez mentionné avant, on n'a pas eu ce stress, cette anxiété de vouloir marquer, où on s'est dit, ouais, c'est vrai que les pénaltys, nous aussi en tant que fans, on était plus inquiets par rapport aux pénaltys, parce que les pénaltys c'est une loterie, et surtout quand on a Emiliano Martinez en face, ça fait toujours un peu plus peur, mais on n'a pas eu cette sensation d'anxiété comme on l'aurait pu avoir, ou comme d'autres équipes l'auraient pu avoir, surtout dans ce genre de moment-là.
Tiens, je voudrais qu'on écoute le latéral espagnol Marc Cucurella parler de Rodri, justement le capitaine qui a soulevé le trophée hier soir, qui a attendu que Donald Trump soit sur le côté pour bien avoir une photo comme il le souhaitait. Tiens, Cucurella qui parle de Rodri.
Pour nous, il est essentiel et je pense que son apport ne se résume pas seulement au but qu'il marque ou au passe décisif qu'il délivre. C'est lui qui contrôle le jeu, c'est lui qui organise l'équipe, qui décide du moment où l'on presse et du moment où l'on attaque. Il est indispensable pour nous. Chaque fois que nous sommes sous pression, il nous offre une solution. On peut toujours lui donner le ballon. Il ne le perd pratiquement jamais. Je pense qu'il mérite ce trophée parce qu'il a réalisé un tournoi exceptionnel.
Tiens, je voulais qu'on l'écoute parler de Rodrigo Correa parce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le ballon d'or sera forcément espagnol? Tiens, avant de t'écouter, Ben, parce que ça nous intéresse de savoir ce qui se dit en Espagne, petit tour de table. Valentin, déjà à New York, toi qui l'as vu de près en plus sur cette finale et sur l'impact qu'il a sur cette équipe.
La question, c'est est-ce que ça peut être Rodri ou est-ce que ce sera un espagnol forcément? Parce que
comme tu veux.
En fait, j'ai la réponse à aucune des deux. Mais Rodri fait un super tournoi, mais il a été beaucoup blessé cette saison. Il n'a pas de titre majeur avec Manchester City. Ça peut être seulement sur une Coupe du Monde, mais bon, ce ne seraient pas les vrais critères du Ballon d'Or.
Il a été élu meilleur joueur du tournoi, hein, c'est ça, hein, Rodri.
Ouais, c'est ça. Ben dira ce qu'il en pense. Moi, quand j'ai parlé avec des journalistes espagnols, ils m'ont dit si c'est Messi qui gagne, ce sera Messi. Sinon, ce sera Yamal. Et les Espagnols savent faire campagne pour le Ballon d'Or. Il fait pas une super Coupe du Monde, mais il est champion du monde, il est champion d'Espagne. Je crois qu'il a 24 buts, 18 passes avec le Barça, meilleur joueur de Liga. Donc, c'est pas mon avis personnel, on va dire, parce que j'ai pas réfléchi, j'ai pas regardé toutes les stats et tout. Mais je pense que si on doit dégager un favori, ce serait peut-être Lamine Yamal. Mais ça veut pas dire que c'est lui qui a fait la meilleure Coupe du Monde côté espagnol. Mais peut-être qu'il a la saison la plus complète en fait, et collectivement et individuellement.
Ben, en Espagne, on dit quoi? On commence à faire campagne pour un joueur espagnol pour le Ballon d'Or?
Alors, sincèrement, on est plus dans l'euphorie du moment, on est champion du monde. J'ai pas encore trop lu d'articles par rapport à ça, mais je rejoins un peu l'avis de votre collègue. Je pense que ça va être là entre Messi, Lamine Yamal, Rodri aussi. Alors, moi, hier, avec mes amis, on en parlait aussi souvent, mais. Et Fabien Ruiz, en vrai. Quand même, lui aussi, il a fait une très bonne saison.
Je suis d'accord. Alors, il a gagné la Ligue des Champions, il était titulaire. Il est champion du monde, il était titulaire aussi. Le problème de Fabien Ruiz, c'est que sa saison avec le PSG, elle a un peu tronqué. Il a été énormément blessé. On l'a vu réapparaître les deux derniers mois avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Fabien Ruiz, et puis cette Coupe du Monde, il a un rôle déterminant, notamment en demi-finale contre la France. Il fait une petite finale, mais malgré tout, ça reste un joueur très bon. Mais je suis pas sûr que ça soit assez flashy, et on sait qu'aujourd'hui les votants aiment bien un peu le bling bling. Je suis pas sûr que Fabien Ruiz rentre dans ce critère.
Mais la Coupe du Monde aura forcément son importance, Ben.
C'est clair. Non, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que si on prenait en compte les critères, non, du Ballon d'Or par rapport à la saison qu'il a fait aussi en 2024, il avait été décisif, et même l'année passée aussi avec le PSG, ça a été un des principaux acteurs de cette première Ligue des Champions qu'avait remporté le PSG. Mais c'est vrai que, comme tu l'as bien dit et tu l'as très bien souligné, ça va être un joueur beaucoup plus flashy. Lamine Yamal a fait une saison très complète avec le FC Barcelone, même si ces derniers mois ont été un peu compliqués à cause de la pubalgie qu'il a pu avoir. Donc moi, je pense que ça va se jouer entre Lamine, Messi, parce que Messi, quand même, la Coupe du Monde qui l'a pondu était stratosphérique, et évidemment Rodri, qui, comme on dit ici en Espagne, il a été dans son sofa en tout cas pendant toutes les phases éliminatoires. Il était très à l'aise avec le ballon, et sans lui, sincèrement, on ne gagne pas cette Coupe du Monde.
Messi, 8 buts, 4 passes décisives, hein, qui n'a pas été flamboyant évidemment dans cette finale hier, dont c'était peut-être le dernier match en Coupe du Monde, peut-être le dernier match avec l'Argentine. Il n'a pas parlé, il n'a pas communiqué hier après la rencontre. Merci Ben d'avoir été avec nous. Ben Fernandez Santos, français espagnol depuis Madrid. Bonne fête ce soir, Plaza Decibeles, avec les gens de la Roja qui sont actuellement au Palais Royal. Là, ils viennent d'être reçus par le roi Felipe. Donc on va continuer. Valentin, tu restes avec nous. Évidemment, Valentin Germain depuis les États-Unis. On va parler dans un instant des chantiers à venir de l'équipe de France de football. Hein. On attend vos messages aussi sur WhatsApp au 06 12 424 424. Tiens, j'ai plein de messages. Wally qui me dit heureusement que l'Espagne a gagné, ils ont sauvé le foot mondial, et parce que les Argentins ont été indignes. Duc qui me dit la vraie question, c'est pour qui le Ballon d'Or? Eh oui, on est dedans là. On est déjà dedans. C'est vrai qu'on va voir qui va faire campagne pour qui. L'Espagne est meilleure sans Pedri, me dit Casillas. Ils sont meilleurs avec tous les joueurs, en fait.
Oui, après Pedri, quand tu rentres hier, et il apporte quelque chose. Qu'il est sur le terrain, quand même.
Chacun a son rôle, dans cette équipe. Tiens, dans un instant, on va rendre hommage à Kevin Keegan avec un invité exceptionnel dans l'Intégral Sport. Restez avec nous, avec Stephen Brun et vous, 32C. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
18h27 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 20h. On est toujours avec Stephen Brun, avec Valentin Jamin qui est toujours à New York où il a commenté la finale de la Coupe du Monde hier. Dans un instant, on va parler des Bleus. Tiens, on va se demander quels sont les chantiers à venir pour Zinedine Zidane. Bon, je vous le dis, ce sera lui, là, sélectionneur. Hein.
T'es sûr?
Ouais, a priori, le suspense c'est pas terrible. Donc, a priori, ça va vraiment être lui. On vous donnera les informations dans quelques instants. Mais avant, on va bousculer un petit peu notre programmation cet après-midi parce qu'on a appris une nouvelle très triste il y a quelques minutes, je vous le disais, le décès, la disparition de Kevin Keegan à l'âge de 75 ans, footballeur mythique en Angleterre, double ballon d'or en 78 à 79, qui a porté le maillot de Liverpool, qui a porté le maillot d'Hambourg, qui a été également un entraîneur très respecté, notamment à Newcastle, où je vous le disais, il a entraîné quelqu'un qu'on connaît très bien, à qui on est attaché en France, c'est David Ginola, qui est avec nous en direct sur RMC dans l'Intégral Sport. Bonsoir David.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir David.
Et merci beaucoup d'être avec nous sur RMC ce soir. Évidemment, c'est un hommage qu'on voulait voir avec vous. On vous imagine touché ce soir après la disparition de ce qui est une légende du football que vous avez bien connu. Hein.
Disons que j'aurais préféré être avec vous pour une raison un petit peu plus sympathique. C'est vrai que je suis assez triste d'apprendre la nouvelle parce que il y a une part de nostalgie par rapport à au-delà du joueur, au-delà de l'entraîneur, de l'homme qu'il était. C'était un homme avec un cœur immense. C'était quelqu'un de très respectueux, qui respectait son football, qui respectait énormément les gens, les fans à Newcastle. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris à ce niveau-là, au niveau humain. Donc effectivement, quand il y a des personnes comme ça qui sont un petit peu atypiques dans le monde du football, on les regrette.
On les regrette, évidemment. David, pour la plus jeune génération qui nous écoute, peut-être que le nom de Kevin Keegan, c'est un nom qui sonne comme ça, mais qui n'évoque pas forcément de grands succès, parce que voilà, on n'est pas tous dans la culture foot, on dit double ballon d'or. Vous avez joué en Angleterre. Qu'est-ce qu'il représentait là-bas, Kevin Keegan, pour les Anglais? Vous le disiez, à Newcastle, il était très respecté. C'était qui en Angleterre, Kevin Keegan?
Keegan faisait partie des légendes du football. De par les épopées européennes, ça a été un des rares joueurs anglais à cette époque-là à s'expatrier, notamment en Allemagne, à Hambourg, où il a eu un parcours. Il n'était pas parti juste pour changer de pays. Il est parti pour réussir avec un club allemand. Vous l'avez souligné, il a été double ballon d'or, donc c'est quelqu'un qui a marqué sa génération en tant que footballeur. Donc oui, c'est une légende du jeu. Je disais récemment à quelqu'un, quand j'avais en 76, l'épopée de la Saint-Étienne, quand ils ont rencontré Liverpool et le Liverpool de Keegan, Terry McDermott, c'est à ce moment-là, j'avais 9 ans, c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon père que je voulais être footballeur professionnel. Donc c'est des joueurs qui m'ont donné envie de faire ce métier, parce que quand je les voyais jouer, je me disais non seulement je vais être footballeur professionnel, mais j'aimerais un jour fouler les pelouses de Première Ligue. Donc il a contribué à faire que des jeunes gens comme moi à l'époque aiment ce métier, aiment ce sport, aiment cette ambiance, parce que dans son jeu, son abnégation, son style, il était différent. Donc effectivement une grande tristesse. Mes pensées vont à Jean, Laura et Sarah, ses enfants, Jean, sa femme, qui m'ont reçu à Newcastle comme si j'étais leurs enfants. Donc pour moi c'est une nouvelle qui arrive vraiment mauvais moment.
Très touchant de vous écouter, David Ginola. C'est toujours important, bien sûr, en plus de se rappeler des transmissions, de ce qui nous a fait aimer ce jeu, ce qui nous a fait nous approcher de cette carrière de footballeur. Effectivement, Kevin Keegan, qui a disparu aujourd'hui, fait partie de ceux qui ont fait l'histoire de ce maillot rouge mythique de Liverpool. David Ginola, en direct sur RMC, une question juste avec Stephen Brun.
Ouais, David, tu nous parlais de tes rêves, de découvrir la Première Ligue à travers ce que tu avais vu de Kevin Keegan à Liverpool. Et c'est lui qui te permet de la découvrir, cette Première Ligue, parce que tu es joueur du Paris Saint-Germain, c'est lui qui vient te chercher pour aller à Newcastle, et cette aventure, elle dure que 2 ans, mais elle aurait pu durer plus longtemps si Kevin Keegan était resté un peu plus longtemps, parce que c'est mal passé ensuite avec son successeur, et cette carrière formidable que tu as en Première Ligue, tu lui dois un petit peu.
On doit rien à personne. On doit rien à personne. Les choses qu'on doit, on le doit à soi-même par le travail, l'abnégation, les valeurs qu'on prône à travers son métier, à travers son sport. Dans son parcours, dans le parcours de chacun, il y a des personnes qui comptent. Il y a des gens qui ont, à un moment donné, pris conscience que, c'est vous et pas un autre. Et à ce moment-là, Kigan avait décidé que c'était moi qui devais venir à une époque où il n'y avait pas l'arrêt Bosman, à une époque où c'était très compliqué de s'expatrier. Très peu de joueurs français s'expatriaient. Et c'est vrai qu'il a eu confiance en moi. Donc, et il m'a donné cette liberté, cette notion de valeur et de respect des gens. Toujours, même si tu es footballeur, même si tu es adulé, il y a toujours un retour aux fondamentaux que sont les valeurs humaines. Donc ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a contribué à ce que vous êtes un joueur de football, mais une fois que vous arrêtez de jouer au football, vous êtes qu'un homme. Et aujourd'hui, quand je retourne en Angleterre, ce qui me plaît le plus, c'est de voir des gens, de rencontrer des personnes qui, au-delà du joueur qu'ils ont pu voir évoluer sur les pelouses anglaises, ils voient un homme avec des valeurs, un homme avec un sens du respect. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Voilà. On a beau faire ce qu'on veut sur un terrain de football, ce qu'on peut surtout, mais à l'arrivée, ce qui est le plus important, et c'est ce que Kigan nous montrait tous les jours dans sa relation avec les autres, c'était cette faculté à toujours être... avoir du temps pour les autres, du temps pour les autres, donner du temps aux autres, parce que nous, on est privilégiés d'avoir pu réaliser et faire de son rêve, de sa passion, son métier, et il nous faisait comprendre ça tous les jours qu'on passait à l'entraînement et les moments qu'on passait ensemble.
Merci beaucoup, David Ginola, d'avoir été avec nous pour ce magnifique hommage.
Merci, messieurs. Passez une excellente soirée.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, l'hommage magnifique du Magnifico à King Kev. C'était le surnom de Kevin Keegan. Une légende du football qui nous a quittés aujourd'hui à 75 ans. Double ballon d'or 78-79. L'un des attaquants les plus talentueux de sa génération. Un mythique joueur de Liverpool qui a entraîné donc David Ginola à Newcastle. C'est nos souvenirs d'enfance, hein. Ginola avec le maillot Newcastle. Magnifique. Les maillots trop larges. Ouais. C'était quand la première ligue avait un truc encore différent.
Exactement.
Ça nous replonge forcément, j'imagine, vous aussi, auditeurs et auditrices, dans une époque qui nous a amené aussi à notre passion du football. Allez, on continue de parler de la Coupe du Monde après cet hommage à une légende, avec une légende qui va arriver sur le banc de l'équipe de France dans quelques jours. C'est Zinedine Zidane, hein, qui est attendu de manière imminente, hein. Ça a été la fin il y a quelques jours du règne, du mandat de Didier Deschamps de 14 ans sur le banc des Bleus, qui s'est terminé par cette quatrième place après la défaite 6-4 face à l'Angleterre à la Coupe du Monde. Valentin Jamin, t'as suivi aux États-Unis, où tu trouves encore pour RMC au plus près cette équipe de France. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Là, on est lundi 20 juillet 18h35 sur RMC, de la suite et de l'arrivée de Zidane sur le banc des Bleus.
Alors, on sait que l'arrivée de Zidane doit être officialisée par la fédération avant fin juillet. Donc, ce sera dans les prochains jours, là, dans les 7-10 jours. La question est un petit peu de savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'on sera sur un simple communiqué? Est-ce qu'il y aura une prise de parole du président de la fédération, Philippe Diallo, voire de Zinedine Zidane en conférence de presse? Là, on n'a pas plus d'informations pour le moment. La question est aussi de savoir si Zizou peut-être plutôt s'exprimer, par exemple, sur une chaîne nationale, un JT, où ça parle à tout le monde, et l'exercice c'est un petit peu plus simple. Donc sur le côté communication, on est encore en train d'affiner cela, mais ce sera officiel d'ici la fin juillet. Ça, c'est pour l'arrivée. Et puis après, pour les différents changements, tout va changer, hein. On n'aura pas du tout le même staff. Normalement, aucun membre du staff de Didier Deschamps ne sera conservé. Il y aura un staff beaucoup plus élargi. On parle de 25 membres, certains évidemment qui l'ont connu lors de ses passages au Real Madrid, son fidèle adjoint David Bettoni, Amidou Msadié qui était avec lui également. Pourquoi pas également Grégory Dupont, c'est pas encore arrêté, mais qui a été avec lui dans la cellule médicale. Il y a une volonté aussi de la part de Zidane de féminiser ce staff, nous dit-on. Donc on en saura plus là encore une fois que tout cela sera officiel. Mais voilà un petit peu les contours que prend cette arrivée du champion du monde 98 à la tête des Bleus. En tout cas, officialisation imminente, et évidemment il n'y a plus de secret. Et s'il y avait un secret, de toute façon tu l'avais trahi, Georges.
Non, mais c'est ça, parce que j'ai un message de Jeff sur WhatsApp 06 12 424 424 qui me dit et si Zizou ne reprendrait n'avez pas l'EDF, est-ce qu'il y a un plan B? L'EDF, l'équipe de France, hein, ouais. Pas la compagnie. Ouais.
Est-ce qu'il imagine et qu'on t'a Linky, le mec, il va mettre ton Linky sur lui, c'est Zinedine.
En fait, c'est le plan B de Zidane.
Mais c'est vrai que c'est particulier parce que Philippe Diallo avait dit ah, je connais son nom, mais je ne peux pas vous le donner. En fait, tous les médias ont sorti l'information. Donc, c'est, on croise des supporters qui nous disent mais vous êtes sûr, hein, c'est bien Zidane. Oui, oui, l'information a été. Mais... confirmé par nos soins, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle de la fédération.
Encore. Il était à la finale hier, hein,
il était là en tribune avec son sponsor. Mais déjà sur le remaniement du staff, il a raison Zidane, parce que tu peux pas continuer avec des garçons qui ont vécu quasiment 14 ans avec Didier Deschamps pour des problèmes peut-être. Alors je dis pas que ces mecs sont pas ces garçons-là vont pas être loyaux s'ils étaient restés avec Zidane, mais t'as envie d'avoir un staff à toi qui débute avec toi plutôt que d'avoir des garçons qui ont vu le système Deschamps pendant 14 ans et qui ont peut-être de l'affection avec l'ancien sélectionneur. Donc il a raison de faire table rase. Voilà, après la communication, comment ça va être annoncé, là aussi moi je suis curieux de voir Zinedine Zidane en conférence de presse. On parle de joindre le TF1 parce qu'on sait que Zinedine Zidane n'est pas non plus grand, le plus grand orateur, le plus grand communicant qui existe. On l'a vu lorsqu'il était avec le Real Madrid. Ça aussi, ça fait partie du métier de sélectionneur, parce que des confs de presse, t'en manges.
Hein, ah bah là, il va être exposé.
En tant que sélectionneur.
Il va être exposé comme il ne l'a jamais autant été en France. Hein.
Exactement. Exactement. Et puis attendu. Ça fait de nombreuses années qu'on attend Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de
Trop
France.
Trop attendu.
Et peut-être que dans les mots de Didier Deschamps sa dernière conférence de presse qui dit que je suis parti parce qu'il y avait un climat détestable, peut-être que l'ambiance autour de Zinedine Zidane, que le peuple voulait absolument avoir Zinedine Zidane, ça peut rendre peut-être en compte sur le départ de Didier Deschamps.
Il va avoir une période de grâce quand même, Zidane, j'imagine, pendant un moment où tout va lui être accordé.
Ça veut dire combien de temps ça?
Je sais pas. Après, on va le traiter comme n'importe quel sélectionneur.
Parce qu'il y a des standards à tenir quand tu es sélectionneur de l'équipe de France. On parle d'une nation qui est potentiellement prétendant au titre de champion d'Europe et champion du monde dans 4 ans avec les joueurs qu'on a vu à la Coupe du Monde. Il y a quand même suffisamment de talent pour pas que Zinedine Zidane ait une période d'adaptation et que l'équipe de France se retrouve à sortir un peu plus tôt que prévu sur des compétitions. Donc la tolérance, je sais pas, peut-être que tout le monde le considère comme Dieu, mais je pense qu'il peut se faire taper sur les doigts comme tout le monde, Zinedine Zidane.
De toute façon, Steve, tu vas vite savoir, en septembre, c'est particulier, nouveau format de la Ligue des Nations.
Turquie-Belgique dans cette zone.
25 septembre au 2 octobre, t'as 4 matchs. Turquie-Belgique. Donc tu seras fixé.
Pas cadeau, hein.
Moi, non, mais si tu perds 2-0 en Turquie,
même si les Turcs ont été très mauvais à la Coupe du Monde,
on verra si l'état de grâce est dur.
Ouais, t'as raison.
Non, mais on a hâte de voir ça, évidemment. Tiens, on va se poser la question, c'est quoi les chantiers à venir pour Zidane. On a Morin qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Salut Morin, bienvenue sur RMC.
Bonsoir à tous.
Salut Morin.
Bon, c'est quoi pour toi le chantier de Zizou là, en arrivant sur le banc? À quoi il doit penser?
On a entendu parler beaucoup des latéraux. Alors après, il va pas non plus faire de la magie parce qu'il va faire
les inventer. Ouais.
Voilà, c'est ça. Après, pour moi, c'est plus des choix forts que des chantiers. C'est ce qu'il va être capable d'assumer des choix forts. Pour moi, il y a peut-être des joueurs qui aujourd'hui sont peut-être très très forts en club, mais ils n'ont rien prouvé en sélection. On va dire qu'on tape dessus, mais Cherki, pour moi, fait partie de ces joueurs-là où il y a quand même des interrogations. Il y a Olivier, mine de rien, parce que quand on regarde aussi sur ce qu'il fait en Allemagne, sur la partie des saisons ou première partie de Coupe du Monde, bah, il est monstrueux. Et dès qu'il y a des matchs ultra importants, ultra décisifs, j'ai l'impression qu'il s'efface.
Alors, oui, ça après, je te trouve Morin très sévère avec Olysée. C'est sa première grande compétition. Olysée, ça reste quand même malgré tout un jeune joueur dans le giron de l'équipe de France.
En Ligue des Champions, on l'a vu quand même.
Oui, en Ligue des Champions, il a été très bon. Mais en l'équipe de France, sur une Coupe du Monde, c'est quand même une première énorme compétition avec beaucoup de pression.
Quand je dis choix fort et assumé, ça ne veut pas dire forcément l'enlever de l'équipe de France. Attention, ça va être son positionnement, comment il va l'utiliser. Après, ce que je dis au standard, c'est que les Espagnols aussi nous ont montré une leçon, mais c'est une leçon pas que l'équipe d'Espagne nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui c'est qui a fait gagner PSG? C'est un Espagnol, c'est Luis Enrique. Et comment il a fait gagner le PSG? C'est en enlevant peut-être des individualités qui étaient super fortes et en prenant des joueurs très techniques au milieu de terrain. Et il est peut-être là aussi le choix en équipe de France, c'est-à-dire qu'on a des grosses individualités, on a peut-être les meilleurs joueurs du monde. On entendait dans la presse qu'on pouvait faire limite 3 équipes. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui manque, c'est des joueurs type Griezmann, qui sont capables de garder le ballon, de casser des lignes rapidement, et l'Espagne nous l'a montré. Alors oui, athlétiquement, on est une équipe qui est très très forte, il y a de la vitesse, c'est athlétique, Mais peut-être qu'aujourd'hui, il nous manque ça au milieu de terrain. Et ça peut être le chantier de Deschamps de trouver des joueurs du profil de Griezmann qui soient capables techniquement de garder des ballons, de casser les lignes, d'aller dans la récup et d'aller de l'avant. Mais ça, c'est que mon observation.
Après Griezmann, il a reculé aussi parce que c'était avant un offensif sur ces dernières années avec Deschamps. Il a reculé dans l'entrejeu pour justement permettre de sécuriser le ballon et d'avoir ce côté créativité. Ce qu'on a vu aussi avec au lycée quand il jouait sur le début de Coupe du Monde. Quand il jouait derrière les trois offensives. Donc Olise, il peut très bien avoir ce boulot qu'avait Antoine Griezmann. Maintenant, au milieu de terrain, est-ce qu'Aurélien Tchouaméni, aujourd'hui, qui avait quand même une belle immunité, je trouve, avec Didier Deschamps, va avoir la même avec Zinedine Zidane? Il y a une autre problématique aussi, c'est comment continuer à essayer de faire briller Ousmane Dembélé. Est-ce qu'on le laisse à droite ou est-ce qu'on se rabat sur ce qu'il produit avec le Paris Saint-Germain en tant qu'avant-centre? Et dans ces cas-là, c'est un jeu de chaise musicale. Est-ce qu'on décale Mbappé, on le remet à gauche.
Mbappé, il sera forcément le capitaine de l'équipe de France.
Moi, je vois pas Zinedine.
Je pose la question parce que quand un nouveau entraîneur arrive,
ouais, souvent, en fait, qui d'autre, genre, surtout.
Le problème, c'est que il y a tellement de connivence et d'affinité, je pense, entre Mbappé et Zidane dans le relationnel.
Vous habitez à Madrid tous les deux.
Ouais, voilà. Je vois pas Zinedine Zidane retirer le capitanat et surtout pour quelle raison.
Non, bien sûr. Surtout après cette Coupe du Monde. Non, mais il y a des joueurs qui sont un peu plus, on va dire, en fin de course là. En fait, Valentin, il aura pas des choix trop forts à faire peut-être, Zidane.
Oui, tu veux dire sur le capitanat ou même en général?
Non, en général, pas sur le capitanat, mais voilà, des Lucas Hernandez, par exemple, des N'Golo Kanté. Oui,
exactement.
Merci pour tout, au revoir.
Regardais l'ossature du 11, en fait. Alors, t'as Kanté Hernandez, tu as raison, qui sont trentenaires. T'as Samba, on verra, mais bon, c'est le gardien numéro 2. Mike Maignan, il a 31 ans, mais il va continuer. Digne, il signe au PSG, il est également trentenaire. Et sinon, c'est Rabiot. Et sinon, sur l'ossature du 11, tu peux garder quasiment le même. La question, c'est latéral gauche. Saliba, il sera pas là sur le premier rassemblement sûrement parce qu'il est blessé, mais voilà, t'as Barcola, Doué, Mbappé, Olise, Dembélé, Koundé ou Upamecano, tout ça, ça va rester. La question pour moi, c'est un petit peu ce que disait l'auditeur, quel type de milieu de terrain il va vouloir mettre. Est-ce qu'il va garder Tchouaméni, Rabiot? Ça lui correspond peut-être pas forcément dans son idée de jeu qu'il aimerait a priori un peu offensive/créative. Donc ça peut être une question. Après, il y a l'incorporation des jeunes, Elie Kroupi Junior, Hugo Ekitike. Voilà, faut se projeter aussi dans l'Euro dans 2 ans, parce qu'on parle des âges aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir combien ces garçons auront en termes d'âge dans 2 ans. Mais Deschamps avait voulu réoxygéner, c'était sa grande expression après l'Euro 2024, et ça va servir à Zizou. Et je pense qu'on aura au moins 2/3 du 11 sera peut-être pas dans le 11, mais sera là à l'Euro.
Ça va être fou quand ça va être vraiment réel, en fait, que Zidane sera là vraiment avec le costume de sélectionneur de l'équipe de France.
C'est Will Steel qui...
C'est ça. Bon, bah pourquoi pas, hein, tout le respect, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Ça veut dire que Valentin Jamin nous aura donné que les informations improbables, donc moi j'y crois en Val. Allez, Valentin, merci beaucoup.
Avec plaisir. Je précise juste, j'ai dit Belgique, Turquie, il y aura aussi l'Italie en septembre. Exactement. Pour Zizou.
Donc oui, il y aura peut-être un Zidane Deschamps. Ça a été dit dans l'after l'autre soir. Oui,
ça fait rentrer la bouteille d'eau de Daniel Riolo.
C'est ça.
parce qu'on parle de Zidane, ouais. Mais la grosse question, c'est que va faire Didier Deschamps?
Bien sûr.
On va forcément se la poser, cette question.
Ah, ça me ferait mal au cœur de voir.
Il y a pas une sélection, j'ai du mal à y croire.
Allez, je remercie Valentin. On va accueillir Nicolas Pelletier dans un instant depuis les États-Unis pour nous parler de la Coupe du Monde vécue sur place. Elle vous a plu, cette Coupe du Monde chez Trump? Tiens, on vous pose la question au 32-16, où je remercie d'ailleurs Morin d'avoir été avec nous il y a quelques instants et aussi participer, envoyer vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Et dans 20 minutes maintenant, on ira également sur la route du Tour de France. Journée de repos aujourd'hui, on a plein de choses à dire avec Richard Viran, notre consultant, sur Paul Sexas, 4e du général pour l'instant. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Georges Quirino.
Et on vous remercie d'être avec nous. Il est 18h48 sur RMC. On est ensemble jusqu'à 20h. Et ensuite, c'est l'after foot avec Gilbert Biribois, bien sûr. Tiens, on va parler de la Coupe du Monde dans un instant. C'est Gilbert Biribois.
Ah ouais, je vous dis,
mais... Ah ouais, bon, attends. Et on sort d'une Coupe du Monde à 48, là. Ouais. Il y a eu 500 000 matchs, je te rappelle. On les a tous vus. Même ceux qui étaient à 6h du mat, hein. Tiens, justement, j'ai un message de Z sur WhatsApp 06 12 424 424. Hein. Participez avec nous. Ça fait plaisir d'entendre Steve, comme d'hab. Perso, moi, j'ai boycotté la Coupe du Monde de A à Z. Ce n'est pas mon foot. Aucun regret. Tiens, c'est la question qu'on va se poser tout de suite avant d'aller sur la route du Tour dans un instant avec Richard Viranque. Est-ce que cette Coupe du Monde chez Donald Trump, alors c'était pas que chez Donald Trump, c'était aussi au Canada et au Mexique, mais c'est vrai qu'il a un peu écrasé, vampirisé l'attention. Et sur place, les dernières heures sur place sur le terrain, on va profiter qu'il a encore son visa peut-être, Nicolas Pelletier, on est encore à New York pour RMC. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Allez, venez au 32-16, hein, participez avec nous pour nous dire ce que vous avez pensé de ce mondial. Tiens, je voulais te poser une question d'abord très simple.
Dis-moi tout, Georges.
À Nico, est-ce que la FIFA est contente de sa Coupe du Monde?
Ils sont connectés.
La FIFA est très contente.
Ils sont contents, je pense, non?
Ben, bien sûr, ça a rapporté, je pense que dans les prochaines heures, d'après les dernières infos qu'on a eues là, ils vont annoncer, ils vont faire un communiqué que la Coupe du Monde a fait plus de 13 milliards d'euros de recettes pour seulement 3 milliards d'euros de coûts. Donc, ils vont annoncer ça. Après, ce qu'il faut aussi penser, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est que la FIFA vit sur les 13 milliards pour 4 ans. C'est-à-dire que toutes les autres années, la FIFA ne rapporte pas d'argent. Seule année, l'année de Coupe du Monde, c'est la seule année où elle rapporte de l'argent pour le redistribuer. 98% des revenus sont redistribués.
Ils vont s'en sortir quand même sur les fins de mois. Sur les fins de mois, ils vont s'en sortir.
Je pense qu'il n'y a aucun problème pour la FIFA, parce que quand tu vois ce qu'on a déployé ici du côté de la FIFA avec les FIFA Legends, tous les bus, toutes les voitures qu'on met en place partout aux États-Unis, les transits pour les personnes qui travaillent à la FIFA, je peux te dire qu'ils n'ont aucun problème de train de vie du côté de la FIFA.
Tiens, Steve, alors on peut faire une liste. Il y a eu le show de la mi-temps hier qui a duré 27 minutes.
Je sais que Nicolas Pelletier, il avait le chrono.
Ah ouais, non mais ah bah oui, bien sûr. Parce qu'on fait attention, il y a eu les pauses fraîcheurs.
Non mais par contre, il y a vraiment eu un débat sur ce show de la mi-temps, parce que nous, au stade avec Jean-Louis, on a trouvé ça catastrophique et on a reçu beaucoup de messages pour nous dire que devant la télé, c'était hyper bien. Donc
le problème, c'est que c'est très bien produit, et à la télé, t'as les caméramans qui sont devant les chanteurs, devant Shakira.
Et puis le show de Madonna, il était fait pour la télé.
Le show de Madonna, c'était un show qui
on l'a pas vu au stade.
Tu vois devant ton écran, quand dans la voiture t'as R9 et Ronaldinho et Madonna qui chantent. À la télé, ça marche bien. Dans le stade, je suis pas sûr que le rendu soit magnifique. Voilà.
Justin Bieber, il aurait pu choisir une autre chanson.
Justin Bieber, dans son répertoire, il a quand même des trucs un peu plus bouncy.
Le choix qu'il a fait hier, t'as pas entraîné la foule, le gars, toi.
Parfois, il est dans un mauvais mood, Justin Bieber, un peu nostalgique.
On sait combien ça a rapporté, ce show de la mi-temps, Nico? Je te pose une question.
Non, c'est pas du tout combien ça a rapporté. Ils vont communiquer sur les audiences télé, bien évidemment, parce que c'est là où tu vas voir ce que rapporte vraiment ce show de la mi-temps. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les diffuseurs n'ont pas pu tous diffuser de la pub à la mi-temps, et certains ont un petit peu râlé pour ce show de la mi-temps qui a quand même duré 27 minutes, avec seulement 6 minutes où tu pouvais diffuser de la publicité et le reste en show. Donc c'était pas non plus optimal pour les diffuseurs, contrairement aux pauses hydratation que l'on a eues pendant cette Coupe du Monde.
Tiens, on a Frédéric qui nous appelle au 32-16, il nous appelle du Val-de-Marne. Salut Fred. Ah, est-ce qu'il est là, Frédéric? Il est là. Salut Frédéric.
Ça va,
écoute, tiens, on se posait la question là. Est-ce que le mondial chez Trump vous a plu ou pas? Attends, je crois que tu voulais parler notamment de ce show de la mi-temps hier. Tu fais partie de ceux qui ont kiffé ou de ceux qui se sont dit on va rejouer au foot ou pas?
Non, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça, franchement, alors peut-être parce que moi, j'ai 64 ans, donc des Coupes du Monde, c'est la 15e joueur. La première, c'est en 70, donc ça, j'en ai vu quelques-unes, mais moi, il y a des trucs qui ont été intéressants, je trouve, par exemple, au niveau de l'arbitrage, bon, même si après, ça a fait débat avec l'Argentine, mais enfin, je trouve que on a cogné beaucoup sur les Argentins. Je crois que, bon, moi, je suis un supporter de l'équipe d'Angleterre, donc en demi-finale, je les ai haïs, les Argentins, mais si on aime le football, on peut pas ne pas aimer l'Argentine, c'est pas possible. C'est une contradiction majeure, ça. Enfin, bref, peut-être les Argentins ont un peu bénéficié du laxisme de l'arbitrage, mais je trouve que c'était vachement bien. Pour une fois, les joueurs qui simulaient, ils se relevaient aussi sec au bout de 10 secondes parce qu'ils comprenaient qu'ils allaient pénaliser leur partenaire. Donc, je trouve que ça donnait du rythme au jeu.
Ça, mais après les pauses fraîcheurs et tout ça, Frédéric, on a eu pendant toute cette Coupe du Monde, les polémiques, le carton rouge de Balogun, souvenez-vous, l'attaquant américain a annulé après le coup de fil de Trump. Ouais, est-ce que ça t'a pas un peu agacé, minima?
Oui, si. Non, mais en fait, Balogun, les pauses fraîcheurs, bon, je pense que peut-être qu'il faisait extrêmement chaud, mais je trouve que ça casse le rythme. Et puis alors hier soir, la pause d'une demi-heure à la mi-temps, je me suis dit, franchement, ça m'a foutu en colère, parce que je sais pas comment les joueurs ils ont géré ça dans les vestiaires. Je trouve, tout d'un coup on sort du football. Je veux dire, c'est n'importe quoi.
Les Argentins, ça leur a permis de souffler un peu parce qu'ils étaient rincés, quoi.
Et ils sont calmés, du coup.
Frédéric, je vais te taquiner un petit peu. T'as 64 ans. Tu connaissais les artistes à la mi-temps qui ont performé ou pas?
Excuse-moi, j'ai pas compris ta question.
Je te taquine un peu sur ton âge. Tu nous disais que t'avais 64 ans. Tous les artistes qui ont performé à la mi-temps, là, les chanteurs et tout ça, t'en connaissais pas beaucoup, non?
Shakira vite fait, mais j'ai reconnu Ronaldo et Ronaldinho m'ont fait de la peine tous les deux. Ronaldo, pourtant Dieu sait si j'ai admiré ce joueur exceptionnel qu'il a été. Et puis c'est un gars, je pense que c'est un mec qui est assez sympa, Ronaldo. Mmh. Mais j'avais l'impression qu'on l'avait mis dans la voiture.
T'es pas très à l'aise alors que Ronaldinho, lui, c'est sa vibe. C'est sa vibe un peu plus.
Ronaldinho, il était dedans, effectivement. Juste Nico Pelletier. C'est vrai que nous, on a beaucoup parlé en France, hein, et même en Europe, je pense, de tous les à côté, justement, de toutes les polémiques, de l'omniprésence de Trump, qui a même commenté les choix de Thomas Tuchel avec l'Angleterre, qui a dit qu'il allait faire des golfs avec Harry Kane. On se rappelle qu'il y a eu également au début de la compétition les problèmes avec l'Iran, hein, qui n'avait pas le droit de rester plus de 24 heures sur le territoire. Il y a eu l'arbitre somalien qui n'a pas été autorisé avec son visa à rentrer. Est-ce qu'aux États-Unis ça a fait parler ou pas? Ou c'est un truc très eurocentré?
Non. Non, ça a fait parler aux États-Unis dans les journaux américains. Ça a fait parler. J'ai discuté, c'était en fin de semaine dernière avec un journaliste d'un grand quotidien ici aux États-Unis, et lui, il était un peu excédé par l'omniprésence de Donald Trump dans cette Coupe du Monde, sans être présent dans le stade. Pourtant, il n'est pas venu. Il n'est venu qu'à la finale.
Et toi, qui as fait deux Coupes du Monde, Nico, est-ce que tu as vu de grosses différences, on va dire négatives? Parce que là, l'idée, c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur cette Coupe du Monde, mais.
Ben en fait, moi, ce que je retiens et ce qui m'a un peu fait mal, c'est le
Balogun,
en fait, c'est cette intervention. Non, parce que par exemple, le show d'entrée des équipes, ça, c'est une bonne nouvelle
très
de
bien,
la FIFA.
Ouais,
ça rend beaucoup mieux au niveau visuel. Mmh. Mais il y a, moi, c'est vraiment le carton rouge de Balogun et l'intervention de Donald Trump qui m'a fait vraiment. C'est scandaleux. Franchement, c'est vraiment le moment où je me suis dit, là, il y a vraiment une intervention politique.
Et la FIFA était mal à l'aise avec ce sujet-là, en plus. Hein.
Exactement. Et donc, même hier, lorsque Rodri lui tape sur l'épaule et lui dit, vas-y, mon garçon, on va à côté et nous, on va célébrer ensemble. Là, t'es un petit peu gêné quand même que t'es président des États-Unis et t'es là, tu veux absolument ta photo. C'est quand même un petit peu gênant. Et il y a un élément que je peux aussi vous donner, c'est que la semaine dernière, j'étais à une réunion où il y avait Arsène Wenger, qui est donc le chef football un peu de la FIFA, le chef de développement de la FIFA. Lui n'était pas totalement séduit par les pauses fraîcheurs, et c'est un peu une voix différente de ce qu'on entend à la FIFA, parce que je peux vous dire que normalement dans les prochains mois, on va annoncer que sur les autres compétitions gérées par la FIFA, notamment la Coupe du Monde des clubs, on va instaurer la pause fraîcheur en permanence, parce que ça rapporte énormément aux diffuseurs et ce sont eux qui ont les cordons de la bourse, hein, et du côté de la FIFA. Donc normalement, on va instaurer ça du côté de la FIFA, mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Et Arsène Wenger, qui est quand même une voix très importante à la FIFA, nous disait qu'il n'était pas totalement d'accord avec ça.
Ah, d'accord. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément parties pour rester, peut-être, quoi. Steve.
Non, mais
pas tous.
Pour les interventions politiques, c'est comme si Emmanuel Macron appelait Mbappé pour l'inciter à rester au Paris Saint-Germain. C'est pas vu ça en France.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Mais le seul truc que moi, et encore une fois, tu t'aperçois que il y a un public pour tout, parce que il y a eu beaucoup de polémiques aussi sur le prix des places. Les stades ont été pleins.
C'est pour les Argentins, hier, c'était 15 000 dollars, hein, entre l'avion et les
stades étaient pleins. Tu t'aperçois qu'alors peut-être que le foot devient de moins en moins pour le peuple, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément les moyens mais qui ont envie d'aller au stade. Mais il y a un public pour tout. Il y a un public pour tout. Les gens ont de l'oseille. Tu mets des places à 15 000. Il y a des mecs qui ont 15 000 pour aller voir un événement planétaire.
Même c'est malheureux. Alors,
mais, oui, c'est malheureux.
C'est censé être justement l'événement le plus populaire aussi, peut-être. C'est ce qui intéresse le plus de monde.
Sur la planète. Mais aujourd'hui, c'est.
Ça reste accessible.
Mais le problème, c'est que l'accessibilité, elle a disparu. Genre, aujourd'hui, quand t'as des concerts, quand t'as des grands artistes, regarde, je te parle de ma vie, j'ai voulu m'acheter des places pour aller voir Jay-Z qui vient au Stade de France. Ouais. Les prix sont indécents. Tu payes 200 ou 250 ou 300 dollars. Le Stade de France va être rempli parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de se les payer. Et ça délaisse des gens qui sont fans de foot parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais il y a un autre public et les stades sont remplis. Nico, t'as pas vu un stade où
Moi, j'ai fait tous les stades, mais c'est là où tu as raison un petit peu, c'est que le seul moment où j'ai vraiment kiffé, où j'ai vraiment pris une ambiance Coupe du Monde, c'est un peu hier avec les Argentins, la finale, parce que tu regardes le match de France-Espagne à Dallas où on était, il n'y avait très peu d'ambiance dans les tribunes, et heureusement qu'il y avait les 2000 supporters français qui continuaient de chanter, mais autrement, t'avais très peu d'ambiance dans les tribunes.
Les Mexicains qui jouaient ici, c'était chaud.
Et le show de la mi-temps, on risque de le revoir, ou c'était vraiment un truc américain Nico?
Non, je pense que ça va quand même. Ils étaient quand même très contents hier de leur show, donc je pense que ça peut revenir. On verra. C'est aussi une des questions qui sera posée dans les prochaines semaines, où se déroulera la finale de la Coupe du Monde 2030. Il y a une vraie bagarre entre Madrid et le nouveau stade de Casa. Donc on verra aussi où ça s'en va.
Tu fais attention à quelqu'un qui est en train de reculer sur toi. Ouais. Il faut faire attention à.
C'est peut-être un teasing pour le rugby. Il y a Aaron Grandidier de la section paloise qui sera là. C'est peut-être le bip-bip de la section paloise.
C'est peut-être le gouvernement américain qui l'a entendu, qui est en train de lui dire fais machine arrière, tu vas rester ici. Attention à ce que tu as dit. Merci Nico Pelletier d'avoir été avec nous.
Ciao les amis.
Évidemment. Merci, et pendant toute cette Coupe du Monde, ça me permet aussi de féliciter toutes les équipes RMC Sport qui ont accompli un travail de fou dans trois pays de l'autre côté de la planète. Évidemment avec l'équipe de l'After aussi qui n'a pas dormi. Hein. On a eu toutes les rencontres et notamment une radio digitale impressionnante. Merci Frédéric d'avoir été avec nous au 32-16. Vous participez évidemment sur WhatsApp aussi au 06 12 424 424 dans un instant parce qu'on va parler du Tour de France. On va être avec Richard Virenque pour parler de Paul Sexas notamment. Et puis on va parler du 15 de France aussi. Aaron Grandidier, ailier du 15 de France, sera avec nous pour revenir sur les matchs du championnat des nations. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.